gouvernante arrive. Alors, on excuse Alban qui n'a pas pu se libérer, qui a les autres obligations. Donc, mais Céline est là, et Bénédicte est là. Donc, on va pouvoir. Ah oui, Alban, la caméra.
Oui, s'il te plaît, excuse-moi. C'est très bonne idée.
Donc, mes intervenants sont Céline Germusseau et Bénédicte Chevalier. Je vais faire un petit temps d'introduction comme mes collègues. Voilà, temps 3. Je vais faire un petit temps d'introduction comme mes collègues pour poser un petit peu les bases de la réflexion qu'on va poser aujourd'hui. On va commencer à aborder certains points, mais on va poser le questionnement un petit peu plus large. Alors, dans cette thématique sur penser la réception, médiation, résidence et territoire, il y a bien évidemment la question des publics et un certain nombre de thèmes transversaux qui seront abordés, hein. Mais je dirais la question des publics, pas les publics considérés comme les destinataires, les consommateurs, ceux qui vont aller se construire des pratiques culturelles autour d'une offre culturelle construite pour eux à leur destination, hein. Mais vraiment la dimension publique dans tous les sens du terme, une vision très élargie, ouverte, contextuelle, et qui, avec les intervenantes qu'on a aujourd'hui, peut aussi bien être les habitants autour, hein, qui sont des publics ou des non-publics de proximité, les salariés pour le mécène du Sud et le travail qui est mené, hein, les résidents de la friche, tous les gens qui travaillent ici aujourd'hui sont aussi d'abord publics du lieu, ils le fréquentent tous les jours, hein, et ils en sont aussi un public, hein, les entrepreneurs qui vont aussi être un public, mais qui sont plutôt considérés sous l'angle des mécènes ou de ceux qui vont impulser une action, hein, ben non, c'est d'abord aussi un public. Et là où c'est important d'avoir cette vision ouverte, c'est de dire que ces publics qui sont en fait des acteurs aussi de ce qui est mis en place, hein, vont façonner les publics auxquels, hein, ils destinent leurs actions, et que ça, on a tendance à l'oublier parfois, et qu'il y a une espèce de vision de neutralité, c'est-à-dire que comme c'est des acteurs, hein, on les considère comme des acteurs, hein, et on ne considère pas qu'ils sont aussi des publics qui ont leur vision, leur rapport aux arts et à la culture, hein, et que ça va façonner la manière dont eux vont s'adresser à ces publics. Donc ça, c'est une première question qui va être un petit peu transversale. Une deuxième question transversale, c'est celle des pratiques culturelles. Alors versus, moi je parle dans mes recherches d'expériences sociales sur fond d'art. Comment qualifier ces expériences de une maman qui vient avec son enfant traverser la friche, qui va croiser des artistes, des projets, des œuvres, hein, mais qui n'est pas là pour une pratique culturelle construite et élaborée, hein, mais c'est bien une expérience sociale, de vie quotidienne et sur fond d'art, puisqu'il y a des artistes et de la création. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette chaîne qui va d'une expérience très construite, très élaborée, celle qu'on a probablement tous ici aujourd'hui puisqu'on travaille dans ces domaines-là, et qu'on va jusqu'à des expériences qui sont très faibles, light, alors c'est toujours un peu péjoratif quand on le dit, hein, mais qui sont aussi différentes et qu'on aime aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours des publics très sérieux, documentés, investis, et qu'on a parfois des relations à l'art qui sont des relations très distendues ou simplement sur le mode de la convivialité. Troisième terme, territoire, contexte, proximité, familiarité, comment on peut essayer de poser ces questions dans des domaines aussi différents que le mécénat ou que la friche qui est sur un quartier tout à fait emblématique et spécifique de la ville de Marseille. L'objectif, c'est donc de penser la réception à travers des outils, des dispositifs, hein, donc on va parler de résidences et d'autres projets que vous présenterez dans un petit moment, avec la friche label de mes d'un côté, les scènes du sud de l'eau, des perspectives croisées, mais essayer de s'interroger sur comment ces structures diffèrent, abordent la question différemment, mais dans un même temps vont se croiser sur des logiques d'action qui visent un peu les mêmes objectifs. Une volonté, on en a discuté ensemble, hein, d'ancrage territorial, une attention portée à la médiation, alors on en a discuté avec chacune d'entre vous, qu'est-ce qu'on entend par médiation? Bah, la médiation, c'est les dispositifs formels, construits, élaborés, puis c'est aussi la médiation, l'interaction, la relation, hein, et là, ça peut être des choses qui sont tout à fait informelles, différentes, on en prendra des exemples. Point de convergence aussi, on va s'interroger sur, nous, la complémentarité avec les recherches en SHS, la question, c'est comment nous, les sciences humaines et sociales, qui travaillons sur ces questions, on peut venir en appui. Alors, ce que je vous proposais de réfléchir, c'était aussi d'interroger, hein, pour capitaliser, relayer, transposer ce qui fonctionne, mesurer des effets, l'impact qualitatif et pas seulement l'impact quantitatif, comprendre les freins, les différentes formes de résistance, produire des indicateurs, mais des indicateurs ajustés, pas seulement content, pas content, tant de personnes, etc. Et puis, surtout, là, je pense que c'est un des grands enjeux de ICAR, c'est transposer, transférer, ce qui se passe bien quelque part quand on retrouve le même contexte ou les mêmes conditions ailleurs. Et être plutôt dans une forme de capitalisation et de transfert, hein, plutôt que dans une forme de recommencer systématiquement ou inventer des dispositifs. Je pense là, par exemple, à des choses qui se font sur les quartiers ou en milieu rural. Je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses existent et qu'il est plutôt temps de faire un état des lieux de l'existant que de proposer des choses nouvelles. Le dialogue va donc se faire entre Céline et Bénédicte. Alors, la Friche, je le désignerai comme un laboratoire d'expérimentation culturelle, avec des espaces sociaux, spatiaux, artistiques partagés, et puis une pluralité d'activités qui vont du très social au très très artistique, et puis entre les deux, bah, tous les possibles. Mécènes du Sud, des entreprises actrices de la création, qui s'investissent dans la création, des entrepreneurs qui sont à la fois des médiateurs et un public spécifique, hein, ce qui peut créer aussi des difficultés ou des interrogations sur le terrain. On va procéder en trois temps, donc je vais passer la parole à chacune d'entre vous. Alors peut-être pour vous situer un petit peu ce sur quoi je me suis appuyée, je vais donner une citation de chacune que j'ai repérée, qui va planter le décor pour notre public, qui lui n'a pas forcément fait la recherche d'informations que j'ai faite. La citation que j'ai prise de Céline, c'est « Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir et d'accueillir, mais aussi d'apprendre à faire ensemble, créer des projets artistiques citoyens et y associer les habitants, les structures sociales et culturelles du territoire, les jeunes usagers du site, partant du désir, voire de la nécessité d'aller vers, de faire avec et non pour. » Voilà, je trouve que c'est tout à fait explicite de faire avec et non pour. Hein. Et ça revient à la question du public et de la médiation et comment on s'adresse aux gens. Bénédicte, j'ai pris deux petits extraits. Le premier, c'est sur la relation de mécénat à soulever la question des représentations stéréotypées qu'il véhicule. Mais de quoi parle-t-on? Le mécénat est-il un statut, un profil, une pratique? Que permet d'engager le mécénat culturel? Et une autre citation qui reflète un autre volet de l'activité. Hein. L'art est de nature complexe et complexe à exposer. L'art en entreprise reste, c'est votre terme, une anomalie. Mais si l'art ne peut y venir trouver son public, il peut en revanche venir le chercher. Et cela me semble encore plus stimulant. L'entreprise, qui accueille une résidence, ménage dans son paysage la possibilité d'une exploration, d'une observation, d'expérimentation et d'interaction. On retrouve là clairement le vocabulaire et les mots de ce qu'on essaye de mettre en place au PEPR ICAR. Alors, je vais passer la parole dans un premier temps à Céline, pour un premier temps de thématique. Et ma question, ce serait, quel est l'esprit de ce qui s'est mis en place, de ce qui s'est construit ici à la Friche, particulièrement pour le domaine des arts visuels. Si tu peux revenir un petit peu sur la genèse, les enjeux et ce qui te paraît spécifique.
Alors, vaste question. Merci pour l'invitation. Donc, si je fais la genèse des arts visuels et ses enjeux, alors je vais remonter qu'à 2013. Parce que je connais moins bien avant ce qui a précédé, donc la Marseille, capitale européenne de la culture, puisque du coup, beaucoup d'espaces ont été réhabilités pour accueillir des expositions. Il y a à peu près 2800 mètres carrés d'espaces d'exposition, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, ce qui a amené beaucoup de questions, puisque si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer en deux secondes. Donc, la SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, nous abritons 70 structures sur site à la Friche, dont Chronique, enfin, Zinc Seconde Nature, des producteurs arts visuels, spectacles vivants et autres. Et en ce qui concerne les arts visuels, nous travaillons ensemble à la programmation de ce qui est présenté dans nos murs. Donc à savoir, dans le cas de Chronique, on y travaille, on accueille l'exposition, après on peut accueillir d'autres projets extérieurs, mais tout ça se réfléchit, se discute et se construit ensemble. Et donc, depuis, on a même accueilli un projet du CNAP en 2013, des images comme des oiseaux, qui était un vrai plaisir. Mais donc, voilà, donc dès 2013, il y a eu un enjeu d'une barre très très haute pour remettre la place de l'art contemporain à l'endroit de la Friche, et aussi au niveau marseillais, comme un endroit vraiment très très important et qui se devait d'avoir une place au niveau régional et aussi national. 2013 avance, donc les enjeux ont été réussis, mais la collectivité, la SIC, les sociétaires, se sont interrogés sur les rapports qu'on avait avec notre territoire, donc le quartier de la Belle de Mai. et qui posait la question, du coup, par des bords, des usagers de la friche. C'est-à-dire toutes les personnes qui circulent dans tous les espaces qu'on voit tous les jours, et quel rapport on entretient avec eux, et quel rapport eux entretiennent avec la friche, la programmation qui est faite, et de mon endroit, la programmation des arts visuels. Donc, quel rapport ils ont aux expositions, est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, ça a été des vrais sujets, je m'arrête là-dessus, sinon je développe sur la galerie tous les possibles, mais je passe la parole à Bénédicte.
On prendra les exemples, et peut-être après. Et Bénédicte, de ton côté, comment se positionnent les scènes du Sud dans cette relation à construire entre les entreprises et les artistes, hein. Pareil, quelle est un petit peu la genèse, les enjeux qui étaient posés au départ, hein.
Alors, concrètement, c'est une association. Elle a été créée en 2003 à l'initiative de dirigeants d'entreprises qui étaient au nombre de 8, hein, basés à Aix-Marseille, et qui ont posé une règle du jeu, celle d'un mécénat collectif qui a une vertu assez éthique qui est l'anonymisation des dons. C'est-à-dire que le mécène dans l'histoire, c'est Mécène du Sud et c'est pas chacune des entreprises qui est membre. Une autre règle très importante qui a un peu scellé le destin et la pérennité de l'association, c'est d'avoir eu l'humilité de ne pas se poser en expert des projets qu'ils allaient soutenir. Donc on a passé déjà 10 ans en pluridisciplinarité où l'association soutenait des projets de danse, musique, théâtre, art visuel, mais entourée d'un comité artistique indépendant, libre, de professionnels de l'art assez pointus et qui faisaient le choix des projets pour ces mécènes qui déjà avaient anticipé l'élargissement du collectif puisque l'objectif c'était d'arriver à une quarantaine, cinquantaine de membres, enfin voilà, et surtout d'une gestion impossible des connaissances de tout un chacun qui pouvait amener un projet, donc ils ne voulaient pas de ça. Ils étaient très bien conseillés et ils avaient ce qui les réunissait, c'était un désir de résilience pour le territoire, j'allais dire. Un moment où Marseille était assez malmenée en termes d'image, politique, c'était vraiment la ville, un peu la mauvaise fille de la France. Et ils avaient l'intuition que de soutenir la création artistique, c'était une des manières de redonner un imaginaire à cette ville, de l'enrichir, et que ce qui était bon pour le territoire était bon pour leur entreprise. Donc pas de notion de contrepartie comme dans un mécénat classique, pas de recherche d'image, mais plutôt un collectif de chefs d'entreprise avec des visions extra-économiques, très militants, et donc qui en particulier ont été très actifs pour que Marseille gagne ce titre de capitale européenne de la culture. En deux mots.
Et tu aurais des exemples de dispositifs, par exemple aussi de résidences marquantes ou qui montrent bien la façon dont ça fonctionne ?
Alors déjà la colonne vertébrale, je ne l'ai pas dit, c'est un appel à projet annuel pour la création d'œuvres nouvelles. Tous porteurs de projets ou projets en lien avec le territoire d'implantation des mécènes. Et à côté de ça, l'asso commence en 2003, commence son premier appel à projet en 2004. Moi, j'arrive fin 2006, et d'emblée, ce qui me paraît absent, c'est le lien entre les porteurs de projets et les entreprises. Et j'ai l'intuition qu'il y a un terrain de recherche possible, et il y a une porosité à chercher, qu'en fait, en l'occurrence, donner de l'argent, c'est le niveau zéro de la relation, et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, je marche vraiment sur des œufs parce que je me rends compte que parler de résidence en entreprise, il y a vraiment le risque du malentendu, ce qui ne manque pas d'arriver avec certains artistes qui pensent que je suis en train de chercher à justement leur faire faire des ateliers en entreprise, quelque chose qui serait très utilitaire. Et en fait, donc je commence dès 2007 à en réaliser, parce qu'il y a au contraire des artistes qui tout de suite tiltent et en fait ont cette envie, ce désir de passer des portes. Et d'un autre côté, j'ai la chance d'avoir des mécènes qui me font entièrement confiance pour expérimenter tout ce que je propose. Et la première grosse résidence, elle a lieu, elle va durer 2 ans en vérité. Et là, ce que je demande, c'est donc pour l'artiste Marie Reynert, qui devient, elle est lauréate pour un projet. Il se trouve que son projet appelle à créer des connexions avec le port de Marseille, qu'au même moment, il y a un armateur qui s'appelle Marfrette, qui rentre dans Mécène du Sud et qu'on va voir. Et en fait, on lui a demandé ça, et au final, on a fait un projet qui a duré 2 ans, qui a eu d'énormes répercussions. Et qui surtout, en fait, a, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, cette entreprise, elle a continué de manière autonome à faire des résidences embarquées, mais aussi en ayant le soin de prendre en compte les salariés qui sont au port, qui sont à bord et qui sont toute la partie qui n'est absolument pas fantasmée du transport maritime et qui est en fait en réalité la vraie part de travail et d'expertise. Et ce chemin-là, en fait, il s'est complété. C'est une assez belle histoire. L'année dernière, on est parti en voyage, toute une partie d'initiation des membres à l'art, et on a fait un voyage qui sont des sortes de voyages d'études pour nos 20 ans, un grand voyage à New York. Et à ce moment-là, j'aurais fait rencontrer les gens de la Villa Albertine, puisqu'on avait une connexion avec Marseille. Et de ce rendez-vous, en fait, sont nés un programme de 6 résidences avec cette entreprise et la Villa Albertine, qui ont été menées l'année dernière et qu'ils réduisent cette année à 3, parce qu'ils se rendent compte qu'avec 6 artistes, ben, le lien il est beaucoup plus distendu, ils ne sont pas approfondis, c'est un peu une machine à résidence, et qu'en fait, ils sont à la recherche de liens beaucoup plus profonds et de sens, en fait. Pour terminer sur la question, je dirais que il faut les a priori sont énormément, enfin sont des véhicules beaucoup empruntés par tout le monde, à la fois par les artistes concernant les entreprises et inversement. Et que pourquoi je vous dis ça, je sais plus. oui, c'est qu'en fait, au final, moi en tout cas, j'ai la chance de côtoyer des chefs d'entreprise qui sont à la recherche de sens dans tous les projets en fait qu'on développe. Et ça, c'est c'est ce qui est le plus précieux.
Et à part les résidences, à proprement parler, tu aurais d'autres exemples d'actions, d'activités, prix
Alors oui, je pense qu'en termes de comme ça, enfin. De ce que j'ai perçu, de ce que vous essayez de générer avec Icar, qui serait une sorte d'intelligence aussi de projet. On avait par exemple, donc ces lauréats, donc une sélection d'artistes tous les ans qu'on soutient pour la production d'œuvres nouvelles. Et comme quand même ces chefs d'entreprise qui sont par nature des gens qui ont un pouvoir de décision qui aiment avoir des objectifs assez définis, alors que l'association soutient des artistes en phase de recherche, auxquels on donne 2 ans, en 2012 est apparue l'idée d'un prix Mécène du Sud qui viendrait récompenser, enfin, au cours d'une soirée où les artistes se présentent aux mécènes, les mécènes viendraient décerner un prix, donc qui serait une dotation supplémentaire à l'artiste qui serait leur coup de cœur. Avec un espèce de malentendu sur le fait que bah, les autres étaient soit moins bons, soit moins... Enfin bref, un prix qui en fait n'élimine personne. Donc première problématique. Et donc ça a duré un temps jusqu'à ce que les artistes, d'une part, essayent de se concerter pour remettre en cause cet aspect compétitif que j'avais beau essayer de déjouer, mais qui était finalement quand même là. Et en même temps, l'année où 3 sont arrivés ex aequo sur 5 cette année-là, donc c'était un peu bizarre. On a décidé d'arrêter le prix. Les mécènes eux-mêmes se sont dit qu'ils étaient assez mûrs pour ne pas avoir besoin de cette carotte pour porter une attention au projet qui était soutenu par Mécènes du Sud. Et puis, il manquait quelque chose. Et depuis 2 ans, on fait un truc qui est super bien. Non seulement parce que dans cette soirée, on n'invite plus seulement les mécènes, mais des opérateurs qui sont nos partenaires du territoire et qui dont plusieurs sont là ce soir, notamment La Friche, notamment Chronique. Et auquel on vient de demander en fait de découvrir de ces projets. Et je travaille avec les artistes pour qu'ils arrivent à formuler les besoins non matériels. Parce qu'en fait, encore une fois, l'argent, c'est pas le problème, mais on en donne. Mais c'est surtout qu'en fait, pour faire un projet, il faut beaucoup d'autres choses que de l'argent. Et qu'à partir du moment, alors exercice difficile d'identifier ce dont on a besoin pour, ça peut être des besoins très directs de compétences, de matériel, ça peut être du temps de travail, donc un travail alimentaire, ça peut être des besoins d'espace, enfin c'est d'expertise, c'est très large. Et en fait, depuis qu'on met ces besoins en partage, ça génère une écoute dans ces soirées qui sont une soirée déambulatoire où on passe d'artiste en artiste et on écoute une présentation. ça permet en fait à chacun des auditeurs de se projeter dans comment je pourrais moi aussi contribuer. Et il y a un truc très joli qui se passe, qui est aussi de déjouer la casquette « je suis professionnelle ». Je vais donner mon propre exemple. Moi, j'organise, je suis en fait celle qui permet. Mais en fait, après la soirée, la première année, j'ai dit « mais moi, je prends la fiche et je regarde ce que je peux faire ». Et en fait, au final, c'est un peu le cadeau de Noël, parce que ça se passe en novembre. Et quand je récapitule pour chaque artiste le nombre de contributions qui peuvent aussi être simplement « regarde cette chose-là, regarde ce que fait cet artiste » ou « voilà, moi, j'ai entendu parler de ça », qui sont juste des informations, une somme d'informations, et ben c'est juste génial, en fait, ce qui se passe. Et ça crée de la relation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a donné à l'artiste une information, moi, je dis à l'artiste, maintenant, tu es dans l'obligation de revenir vers la personne, lui dire que tu as bien reçu ses propositions, ses informations, et éventuellement, du coup, une relation naît et se poursuit entre eux en fonction des besoins. Voilà.
Merci. Un exemple. Et du côté de la friche, même question, quels sont les dispositifs qui pourraient être pris en exemple, hein, et qui sont assez emblématiques justement de ces questionnements?
Alors, si je reviens dans cette idée où la question du territoire s'est posée vraiment très fortement pour nous il y a à peu près 4 ans, je m'occupais et je m'occupe toujours de l'espace qui est à côté, qui fait 200 mètres carrés, et j'y faisais une programmation, 6 expositions à l'année, chacune un mois et demi, le truc vraiment très très classique. Et dans cette réécriture du schéma d'orientation directeur, il a été énoncé l'envie d'expérimenter sur un espace, un projet participatif citoyen en droite lignée avec les droits culturels. Et je me suis dit, voilà, je vais me saisir de ce lieu, je vais on a fondé un groupe d'habitants, habitantes qui elles-mêmes représentent des structures sociales du 3e arrondissement, pour les réunir et leur poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce lieu? Et vraiment, il y a 3 ans, la première réunion, je leur ai posé comme base, si vous me dites que vous voulez en fait un terrain de pétanque dans cet espace et que pour vous le besoin il est là, on fait un terrain de pétanque. Et en fait, pas du tout, dans le sens où ils m'ont plutôt dit au début, nous ce qui m'intéresse c'est présenter les dessins de nos enfants de l'école parce qu'on n'a pas d'espace pour le faire dans leurs écoles. Je fais ah d'accord, donc ils ont fait remonter des besoins, on va dire plus de l'ordre de la médiation culturelle pure et dure, mais auxquels on se devait de répondre. Donc j'ai passé le début à trouver des solutions pour pouvoir répondre à ces questions qui me posaient, pour après les ramener à ma question de base qui était, bon, alors maintenant si je vous dis que vous avez cet espace pour y présenter des projets, ça peut être des projets artistiques ou autres, quels seraient les sujets, vous, que vous aimeriez voir abordés? Quels sont les projets sociétaux qui vous traversent, les questions artistiques que vous vous posez, hein, parce que certains ont des pratiques aussi amateurs. Et rapidement... La première année, ils m'ont dit, voilà, nous, il y a la question de l'écologie. J'ai dit, ah, très bien, la question de l'écologie. Donc, en fait, j'ai demandé à tout le monde de présenter des projets artistiques. J'en ai présenté également, mais eux également, on les a tous étudiés, on les a regardés, mais dans un dialogue qui n'était pas un dialogue d'experts, de sachants à non-sachants. C'est-à-dire qu'on lissait le dialogue, on lissait l'acculturation, c'est-à-dire que là, on parle avec des mots qui, pour ce groupe, ne leur disent absolument rien. Donc, on restait sur des choses plus compréhensibles, et puis pour moi, qui créait du dialogue avec eux. Et donc, on a choisi un premier projet qui s'appelait Plasticocène, qui était sur la question du cycle des plastiques dans l'eau, et avec des œuvres d'artistes d'art contemporain qui seraient présentées. Et le producteur qui avait proposé ce projet, je l'ai fait venir, on a rencontré le groupe, et je dis, c'est super, on va faire ton projet d'exposition, mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on anime, comment on fait vivre ce projet-là, de quoi vous avez envie, quel type de ce que j'appelais de la médiation culturelle décalée. Alors au début, ils m'ont dit, il faut un espace atelier dans l'espace d'exposition. Je suis OK, très bien. Donc, on met donc une grande table, mais qu'est-ce qu'on y fait faire? Donc, on a travaillé cette question-là d'un atelier accessible à tous, tout le long de l'exposition. Et en fait, c'était un projet de muséo solaire. Vous savez, c'est la construction d'une montgolfière à partir de sacs plastiques, qui est assez simple en fait. Vous faites juste un grand rectangle, enfin, vous récupérez des plastiques, vous les coupez en rectangle, vous en faites un grand carré d'un mètre sur un mètre, et à la fin, vous l'assemblez et vous le gonflez. Et ça a duré pendant les 4 mois de l'exposition. Et ça permettait du coup d'accrocher au mur les fameux panneaux d'un sur un, puisqu'on invitait les gens à écrire des mots dessus. Et alors ce qui était génial, c'est qu'ils pouvaient le faire tout seuls, il n'y avait pas besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui leur explique, mais surtout les enfants pouvaient le faire, les mamans, les papas, les grands-parents, et donc de fil en aiguille, tout le monde se passait le mot pour venir. Et dans l'espace, puisque là on ne l'a plus en ce moment, mais il y avait ce que j'appelais un soucieux, c'est quelqu'un qui était là non pas pour faire de la médiation, mais un soucieux dans le sens où il prenait soin de l'espace, et soin des gens qui venaient dans l'espace. Donc juste leur dire bonjour, savoir s'ils avaient besoin d'informations, qu'ils pouvaient parler du projet de ce groupe, de la galerie de tous les possibles, leur indiquer l'atelier en continu, les actions qui allaient être menées, mais pas dans un rapport de sachant. Puisque les deux portes, à l'époque, ça va revenir, étaient ouvertes sur la cour Jobin, ce qui permettait à tous ces usagers qu'on voit sur les tables de pique-nique qui prennent le café avec les enfants, qui n'osaient pas rentrer, ça leur permettait de leur faire comprendre, venez. C'est ouvert, c'est gratuit. Enfin, vous pouvez même, il y a des femmes qui venaient juste avec une chaise, s'installer avec leur café et elles papotaient, quoi. Donc pour moi, là, c'était un pari réussi. Et dans les actions décalées, un jour, ils me disent, on veut faire un loto. Je fais, ok, un loto, bon, très bien. Mais je dis, mais il faut qu'il soit éco-responsable, dans la droite lignée. Parce que l'intérêt, c'est que toutes ces actions menées, après, c'est de pouvoir leur montrer des œuvres, en parler et aborder des sujets. Donc on a fait un loto low-tech. Et forcément. Et du coup, donc ce groupe, parce que l'idée, c'est que moi, je suis facilitatrice, donc c'est eux qui ont la responsabilité de prendre les choses en main aussi. Donc, ils ont été voir tous les commerçants de la Belle de Mai pour récupérer des lots. Je vous assure, hein, j'avais à peu près 120 lots. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Enfin, il y en a beaucoup trop, quoi. On a eu le Village Club Soleil qui est juste derrière, qui a donné un brunch pour 4 personnes, parce que l'été, vous savez, il y a une piscine. Mais pour accéder à la piscine, il faut payer le brunch. Donc du coup, on leur a dit, offrez le brunch pour une famille, quoi. Comme ça, ils pourront venir se baigner. Enfin, toute une série de lots comme ça. Et pareil avec cette question, qui va venir ? Parce que moi, on s'adressait principalement aux habitants de la Belle de Mai. Et le jour même, je vois 200 personnes qui arrivent. Je me dis, c'est pas possible. Et dans le même temps, on avait trouvé des gens pour animer le loto. Donc j'ai découvert l'univers du loto. Tu ne fais pas n'importe comment un loto. Il y a des... Voilà, je ne savais pas. Et qu'on n'appelle pas bingo, c'est dans l'or bingo, ici c'est loto. Enfin bon bref, ça a été toute une histoire incroyable. Et donc plein de familles, plein d'enfants. Et il se trouve que la personne qui a gagné le plus gros lot, c'était une petite fille qu'on connaissait parce qu'elle venait souvent, mais il n'y avait pas ses parents. Et donc là, je les vois prendre de derrière, là où il y avait les lots, quelqu'un prend la caisse de vin, qui se dirige vers la petite fille, qui avait gagné aussi une balade en pointu, etc. Et là, je regarde, ils sont où tes parents ? Tu repars pas avec une caisse de vin. Mais donc, voilà, mais dans l'idée, donc on a trouvé les parents, hein, mais dans l'idée, ça a fonctionné. C'est-à-dire que les habitants viennent, se sont appropriés les lieux au fur et à mesure, les actions qui étaient menées, et prenaient goût à ça. Et là, on présente un artiste, Badr El Amani, qui est un artiste qu'on a reçu en résidence, dans le cadre de résidence méditerranée, comme Yasmine Idriss, et qui est resté sur Marseille et qui a fait tout un travail sur la culture berbère. Et le groupe de la Galerie de Tous les Possibles, c'est fabuleux. Du coup, on va le présenter parce que nous, la culture berbère, ça nous parle. Mais allons plus loin, on veut fêter le nouvel an berbère. Très bien, moi, je suis très partante pour tout. Si ça permet de générer des choses. Et dans le même temps, on me dit, mais il y a un autre collectif qui s'appelle On le fait pour nous, du quartier, qui veut aussi faire le nouvel an berbère à la friche. Je fais qu'à cela ne tienne. C'est des habitants également et habitants du quartier. Et donc, je réunis les deux groupes et je dis, bon, on ne va pas faire deux événements avec le même objet à deux jours d'intervalle. Puisque, vous ne direz pas le contraire, mais le nouvel an berbère, c'était hier, la vraie date officielle. Donc voilà, donc on s'est accordé. Et donc demain a lieu le gros événement, donc vous voyez une partie des décorations d'ailleurs, le nouvel an berbère, c'est-à-dire que le matin, Parce qu'il y avait cette idée aussi, ce qui est bien, c'est de transmettre. Elles ont toutes et toutes une culture berbère différente selon le pays dont elles sont issues, mais il faut aussi transmettre et partager. Et donc, il y a une table ronde à Radio Grenouille, dans le restaurant, et pour laquelle on s'est tous mis d'accord, parce que c'est eux qui décident toujours. Donc moi, je prends juste acte. Mais quelqu'un, à un moment donné, avait émis l'hypothèse de faire venir quelqu'un universitaire. Et puis ils m'ont dit, ouais, enfin, nous, on peut le faire, hein, on peut raconter notre culture, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir nous expliquer. Je fais très bien. Donc c'est vous qui présenterez tout ça. Et les femmes vont faire, enfin, sont en train de le faire depuis mardi, font la cuisine. Et donc il y a un grand repas offert pour 150 personnes. Mais attention, pas n'importe qui. Parce que je vous vois, mais non, vous ne pouvez pas venir. Parce que, bien évidemment, elles ont invité tous leurs amis voilà, du quartier. Et après, on vient ici faire la fête. Il y a un DJ. Attention, pareil, pas n'importe quel DJ qui a été recommandé par ces mêmes femmes, qui va passer que des musiques berbères. Et donc, tout ça, en fait, dans cette idée de transmettre leur culture à tout un chacun. Parce que là, vous pouvez venir, par contre, il n'y a pas de limitation. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure, ces gens se sont appropriés ces objets. C'est-à-dire qu'il suffisait de répondre aux premières questions qu'ils avaient, très concrètes, la présentation des dessins des enfants, il nous faut un espace pour faire la fête de fin d'année, le kermesse, et on a pu aller vers autre chose. Et j'avais aussi fait l'année dernière, puisqu'ils m'avaient dit, mais il y a plein d'artistes à la Belle de Mai. Pourquoi on ne les présente pas? Et quand ils parlaient d'artistes, ce n'était pas forcément des artistes comme nous, on l'entend, mais des artistes pratiques, amateurs, mais il ne faut pas non plus l'utiliser parce que du coup, on peut possiblement les vexer. Donc du coup, on a invité un artiste et on lui a posé comme postulat, c'est pas un solo show, mais tu fais venir d'autres artistes de la Belle de Mai que tu connais, dont tu te sens proche. Et là, ils ont fait une exposition, mais du coup, ça m'a permis d'emmener le groupe, faire des visites d'ateliers d'artistes. Parce que c'est pas évident, en fait, d'aller visiter un atelier d'artiste quand on est un habitant, une habitante, et qu'on n'a pas les codes pour ça. Et donc on a continué à faire ça, on a été voir celui de Bar. D'ailleurs, ils m'ont fait une remarque tellement pertinente, parce qu'il a pris toutes ses pièces pour les mettre là, elle dit, il est vide, hein. Il n'y a rien à voir, on est quand même venu jusque-là dans le panier, il n'y a rien dans son atelier. Bref, mais du coup, c'est comment au fur et à mesure les amener vers d'autres questions, d'autres appréhensions. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, qui me...
Et par rapport à ça, ça se rejoint les deux interventions, hein, sur les questions de trouver la familiarité, le lien, jouer sur la temporalité aussi, je trouve, c'est-à-dire sortir un peu nous, tous acteurs des mondes des arts et de la culture, ou de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ces questions, hein, c'est se déplacer aussi et accepter aussi, je parlais de ça tout à l'heure en disant créer des indicateurs ajustés, ou sortir notre prétendue neutralité, où on ne se rend pas toujours compte qu'on arrive aussi avec nos présupposés et notre rapport très documenté, construit aux arts et à la culture, et que les réponses sont parfois beaucoup plus simples. Et du coup, ça m'amène vers un troisième temps de questions. Donc, Céline, je vais te laisser la parole sur quels sont, selon toi, les leviers qu'on pourrait envisager et comment tu, avec ce que tu as entendu aussi depuis le début des trois tables rondes et cette espèce de rencontre qu'on essaie de créer entre des gens qui se parlent pas souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on se parle les uns les autres ou on s'invite à nos événements, mais on est chacun à sa place. Et là, on essaie de bouger un peu les lignes. Quel levier tu verrais et quels sont encore les freins à lever et qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ou voir ensemble pour aller dans cette direction et répondre un petit peu au projet ICAR.
Alors, ce que je dirais, je commencerai par les freins. Tout d'abord, ce type de projet comme la galerie de tous les possibles, c'est des projets au long cours. Ça prend énormément de temps, c'est long. Et initialement, j'y avais adjoint des producteurs art visuel basés à la Friche, mais la communication ne se faisait pas. Ils réfléchissaient avec des réflexes plus qu'avec le budget, donc je pense à tel artiste, alors que moi, la construction, elle était inverse. Quel sujet ils veulent voir aborder et quel artiste on a en regard de ça. Et je dis ça pourquoi ? Parce que du coup, quand même, la logique pour moi, je ne veux pas que tous les producteurs art visuel, toutes les expositions soient juste orientées avec cet axe-là. En tout cas, c'est une modalité de réflexion et de travail que j'aimerais bien qu'il soit un peu instillé à d'autres endroits, comme ça peut être fait sur le principe de l'expo-pose que vous faites, qui est une médiation, mais qui est un peu médiation plus active. Donc voilà, et les leviers c'est En fait, demander à tout le monde de faire ce fameux pas de côté, ça a été compliqué pour moi hein, pendant 3 ans. Je me suis pris beaucoup de murs. Hein, parce que demander à tout le monde de penser différemment et de envisager les choses sous un autre angle, je me suis rendu compte que je demandais aux gens de passer d'un photocopieur noir et blanc à un photocopieur couleur, et que là, je l'ai perdu totalement. Ils ne comprenaient pas, il y a de la couleur. C'est quoi ? Pourquoi ? C'est très bien, noir et blanc. On ne touche pas. Bref. Donc voilà, et c'est que ça prend du temps, cette fameuse question de l'acculturation. Parce que ce projet-là, en fait, il ruisselle dans d'autres formes de projets ailleurs dans l'Afrique, puisque la question du territoire est une question qui nous traverse tous. Et les leviers pour moi, ce serait d'avoir plus de... moi, j'adorerais que mes chroniques le fassent déjà un petit peu, mais qu'ils viennent encore plus me voir la prochaine fois en disant en 26, alors là, Céline, c'est... on a créé un groupe d'habitants qui va nous faire des... je sais pas. Et voilà, j'adore. Mais c'est ça, en fait. Les leviers, ils sont là. C'est qu'ils viennent après nous nourrir de propositions et...
Oui, et puis partir peut-être du terrain, de l'ancrage territorial, de toute sa petite échelle, et puis petit à petit remonter aux autres échelles. Et Bénédicte, de ton côté, est-ce qu'il y a des freins, des résistances qui paraissent particulièrement importantes, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, et comment engager aussi la recherche dans ces projets ?
Je ne sais pas très bien répondre à cette question, là où je rejoins des réflexions des précédentes tables rondes. C'est cette question de la définition de quoi on parle, de lutter contre ce mot « industrie » qui ne correspond pas du tout à notre secteur. Pour moi, il y a quelque chose de très simple, un mot qu'il faut prononcer, c'est la singularité d'une œuvre. Une industrie, pour moi, elle est tout sauf singulière. En fait, ce qu'on attend des artistes, c'est qu'ils produisent des œuvres qui sont issues d'une singularité, qui sont uniques, qui sont en général pas reproductibles. Et donc je vois pas comment faire avec ça. Et mon public à moi, si je parle des entreprises, c'est le pas de côté, c'est toujours de les ramener à une logique qui ne soit ni financière, ni celle du résultat, ni celle du processus attendu qui va produire, en tout cas du lâcher prise. C'est comment on peut, dans un temps de projet de résidence, lâcher prise, laisser venir, cadrer, donner un cadre hyper précis pour que tout ce qui n'est pas dans l'imprévu puisse être accueilli et qu'on se rende compte que c'est là qu'en fait on produit quelque chose de fécond, d'intéressant et d'artistique. Donc s'il y a un endroit où il faudrait être aidé, c'est celui de la légitimité, de s'autoriser à... Les résistances que je rencontre, c'est celles évidemment des contraintes commerciales qui sont... hyper forte dans une entreprise, qui ne sont pas forcément induites par les dirigeants eux-mêmes, mais c'est intégré chez les salariés. C'est-à-dire comment s'autoriser à s'ouvrir à une autre logique que celle, en plus avec tous les problèmes de burn-out, de pression, etc., c'est compliqué de dire il y aura un temps pour autre chose. Et moi, je suis toujours aussi... j'essaye toujours d'avoir à l'esprit de lutter contre mes propres a priori. Je me fais toujours surprendre par ce que je crois être des limites chez les autres et où je m'aperçois finalement il y a plein de choses qui passent beaucoup plus facilement que ce que j'aurais imaginé. Et j'aimerais de plus en plus, et alors j'ai pratiqué chez les mécènes, je ne sais pas si je suis très claire, par exemple la co-construction. Dès lors qu'en fait il y a des questions qui se posent, puisque un de leurs désirs c'est d'être impliqué, donc ils sont tout à fait prêts à se dessaisir du choix des projets, mais par contre ils veulent comprendre comment ça se passe, ils veulent comprendre comment le comité artistique choisit, ils veulent comprendre, ils veulent vraiment être sûrs que c'est, ils mettront pas ce mot là mais quelque part que c'est très éthique, parce que il n'y a pas de passe-droit, c'est pas des gens qui se connaissent, il y a quelque chose de très vertueux. Ça c'est mes mots, mais c'est ce que ça exprime en fait, leur crainte. Donc à un moment donné, c'est toujours moi remettre à plat la manière de travailler, rendre très lisible finalement ce que je fais, qui est au bout de 18 ans toujours, j'ai l'impression, relativement énigmatique. Donc c'est donner accès à la manière dont je travaille ou dont les artistes travaillent, dont le comité artistique travaille, les principes à l'œuvre, pour leur donner des endroits de réflexion, eux-mêmes, de générer des idées. Il y a toujours des choses à prendre, finalement, de ces processus de travail. pour à la fin peut-être pas avoir tout révolutionné, mais avec deux ou trois choses qu'on va faire différemment, le faire mieux. Et au final, c'est donc difficile, je trouve, de... Enfin, moi, la plus grande résistance, enfin, la plus grande aide que je pourrais recevoir, c'est qu'ils se rendent compte, qu'ils aient une sorte de miroir qui leur dise vraiment, ce que vous faites à l'échelle collective, c'est super, mais si ça se passe à l'échelle collective, c'est parce qu'individuellement, chacun a mis quelque chose. Et ça, c'est quand même extrêmement difficile, parce que quelque part, ils ont... ils se sentent une responsabilité, je pense, hein, ils n'assument pas tant que ça auprès des salariés, d'avoir cet engagement. Il y a encore l'idée de ce mécénat qui serait un peu la danseuse, en tout cas c'est un choix très personnel du dirigeant, qui ont au final beaucoup de mal à faire, à partager cet engagement, quand bien même ils sont convaincus que ce qui est bien pour eux est aussi bien pour les salariés.
Merci.
Moi j'aurais quand même une commande pour Ricard.
Oui, allez,
je l'ai pas dit, mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, les mesures d'impact.
Ah oui, vrai.
Les mesures d'impact. On a avec le projet d'Agari, bref, on a un projet avec Signe Tanger au Maroc qui est financé, donc c'est un programme Accès Culture, un projet de l'Institut français avec l'AFD, et on nous demande des mesures d'impact, mais qui sont tellement pas ajusté à ce qu'on fait, en fait. Donc, du coup, ça devient très compliqué de leur dire, oui, on va toucher 5 femmes, ce qui ne veut strictement rien dire. Et ça, ce travail-là, on en avait parlé rapidement au téléphone.
Oui, c'est clair. On n'aura malheureusement pas le temps de développer.
Non, mais je l'ai dit.
Le temps, tout à fait, bien sûr.
Je m'en serais voulu.
Et je pense que ça fait vraiment partie des questions qu'on va traiter, notamment avec le projet Témis et puis avec d'autres collègues du BEPR. C'est poser cette question de l'évaluation de manière qualitative sur les questions de valeur. Ce que je note dans toutes les temps, hein, des tables rondes, puis on va laisser quand même 2-3 minutes aux questions, c'est cette question du processus. Et moi, qui me revient en tête, là, dans tout ce que j'ai entendu, c'est l'envers du décor. C'est que j'ai le sentiment que sur l'envers du décor, on a beaucoup, beaucoup de points communs et beaucoup de manières de travailler, d'objectifs, d'enjeux qui sont complètement croisés, partagés, hein, qu'après, dans la forme, on ne fait pas pareil. Et que, ben voilà, moi, je suis enseignant-chercheur, tu t'occupes des arts visuels, tu t'occupes du mécénat, après, il y a la biennale ou dans les écoles d'art, au CNAP, enfin, je veux dire, il y a vraiment des positions qui sont différentes, mais il y a un arrière-plan où on voit bien qu'on partage des choses, hein, et le problème, c'est qu'on travaille plus souvent sur le visible, sur ce qui apparaît, ce qui émerge, et on nous fait discuter de ça. Et je pense que peut-être un des grands enjeux dans les années qui viennent, c'est de discuter de ces arrière-plans et comment on peut se rencontrer beaucoup plus sur ces points communs en gardant nos différences, puisqu'on parle pas de la même place, on n'a pas les mêmes objectifs et enjeux. Voilà, c'était un point que je voulais absolument dire, qui m'a vraiment animée là en vous entendant tous. Alors, il nous reste, allez, on va dire 2-3 minutes, et s'il y a quelques questions ou des remarques, hein, dans le public, hein, ou des sujets, des suggestions, hein, on peut allonger la liste des thèmes à travailler. Oui.
Bonjour, je viens de l'Université d'Orléans, et en tant qu'enseignant-chercheur, je voudrais revenir sur les points communs. En fait, dans ce que j'ai entendu, vous dites on est enseignant-chercheur, on a des approches communes, mais on ne fait pas pareil. En vrai, j'ai l'impression de faire exactement pareil, et il y a un mot qui n'a pas été évoqué, et je vous demande, c'est la recherche participative. Qui a exactement les mêmes principes, sachant qu'en tant que chercheur, on ne pense plus en termes disciplinaires, mais en termes de méthodologie. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout généralisé, mais c'est une approche qui est franchement en développement actuellement, avec déjà la deuxième vague d'appels au niveau de l'AMR, et sans doute une troisième vague. Les projets de recherche doivent tous avoir un volet SAPS avec justement des dimensions participatives et des diffusions, etc. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une chose à poser, c'est la question de la culture. Culture d'entreprise, culture d'institution, mais moi quand j'organise une conférence, il y a toujours des artistes. Et il y a une sorte d'interaction entre les deux, sachant qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. Donc c'est une question de point de vue, d'approche, et je pense que c'est vrai que la question de la recherche participative pourrait être davantage mise en avant comme une modalité de travail à la fois rassembleuse et permettant de mettre à plat. Et puis, une deuxième chose pour laquelle j'aurais aimé revenir, c'est sur la différence entre ce qui se passe en France et ailleurs. Bon, je passe constamment, je suis toujours entre deux trains, entre la France et l'Angleterre. Et c'est vrai que bon, j'organise un festival prochainement et moi, je ne sens pas du tout la même rigidité. Alors c'est l'université de Cambridge, c'est peut-être un peu spécifique, mais le festival qu'on organise sera mixte, vraiment chercheurs et artistes, et c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, qui s'appelait Festival of Ideas, et maintenant c'est Festival of Cambridge, enfin peu importe, mais il y a vraiment une sorte de synergie entre ces deux mondes, et j'ai l'impression que ce cloisonnement, et il est quand même un peu franco-français. Oui. Et bon, pour avoir fait moi une thèse d'art plastique au siècle dernier, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, mais les choses sont vraiment en train de bouger en termes de génération. Je crois que les gens qui arrivent maintenant devraient se saisir de ces opportunités qui arrivent. Donc ne pas rester dans les anciennes... les anciens cloisonnements, se dire ils sont en train de bouger.
Oui, on voit clairement de toute façon ce mouvement avec aussi une forte reconnaissance de la recherche-action hein, et de collaboration, de travail sur les enquêtes hein, qu'on n'avait pas forcément avant et qui pouvait être un peu mal perçu ou perçu comme pas assez scientifique et où au contraire aujourd'hui on vient nous chercher pour ces compétences-là. Donc tout à fait, il y a un mouvement. Dernière intervention.
Oui, bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. Je suis Samuel Arnoux, je bosse pour une association en Bretagne appelée Electronica qui porte un festival. Et maintenant, on est un peu des cousins éloignés de Chronique en Bretagne. On est membre d'Aclimé aussi. On a un assez gros volet action culturelle, médiation en relations publiques et on est l'un des 5 pôles que la DGCA a reconnu sur les pôles ressources régionaux. Et on est chargé, comme chacun des pôles, d'avoir une mission ressources nationales. Pensez-nous de positionner sur la question justement de la relation publique avec comme question qu'est-ce que les technologies font évoluer dans ces relations-là, à la fois parce que comme les pratiques artistiques mutent avec les technologies, forcément, il y a de nouvelles choses à de nouvelles relations à créer sûrement, il y a de nouveaux territoires de relations qui sont les territoires numériques, évidemment, et puis il y a des outils nouveaux à destination des professionnels de la médiation dans tous les champs, là, pour le coup, de la culture. Et voilà, c'est des sujets dont on va s'emparer, en tout cas, dans les années à venir. Donc, on est évidemment très intéressé pour réfléchir en lien avec ce qui va aussi être imaginé dans le cadre.
Très bien. Alors, pour conclure, merci à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer des éléments. Je vais essayer de rassembler les liens des différents exemples, structures qui ont été pris au cours des différents moments de la table ronde pour que tout le monde puisse partager. La journée n'est pas terminée. Nous allons devoir sortir rapidement de la salle puisqu'elle est occupée dans 10 minutes par une autre intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve devant. Donc on a rendez-vous à la Cité des Arts de la Rue hein, où il va y avoir la présentation entre vous de En Amour de Adrien M et Claire B. Je ne vous cache pas qu'on est très très content et très fiers d'avoir réussi à avoir ce preview parce que c'est un peu exceptionnel, je dois dire, puisqu'en fait ils inaugurent leur exposition demain.